Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 2 juillet de l'an de grâce 2010 et j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le numéro 91 de notre émission Entre nous soit dit. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet de la plus grande importance pour la France, c'est-à-dire le problème qui se pose à nos banlieues et d'une façon générale d'ailleurs à l'ensemble de nos villes. Il s'agit naturellement du problème qui est lié à l'insécurité et à tous les problèmes qui peuvent se poser en termes d'aménagement de la ville, de politique de la ville. Et bref, je ne vais pas vous faire tous les sujets à la file, car ce n'est pas moi l'invité, mais c'est Xavier Lemoine que j'ai l'honneur d'accueillir. Bonjour Monsieur le maire.
Bonjour Monsieur Richemont.
Voilà, vous êtes le maire de Montfermeil, une ville du département de la Seine-Saint-Denis, plus connue actuellement sous le nom de 9-3.
J'appréciais que vous me disiez Seine-Saint-Denis plutôt que le 9-3.
Je préfère
c'est le seul département qui a un nom de saint dans son
oui,
intitulé.
Exactement, et donc en plus il héberge le tombeau des rois de France, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc nous avons le plaisir de vous accueillir pour de multiples raisons, mais la plus brûlante, si je puis dire, c'est que vous avez écrit une lettre. Alors vous allez me dire qu'un maire, il écrit beaucoup de lettres, mais celle-ci est un peu une lettre différente des autres. Il s'agit d'une lettre ouverte à vos amis les maires, c'est ainsi qu'elle s'intitule.
Absolument.
Et c'est une lettre très importante à nos yeux parce que elle aborde vraiment au fond, évidemment sur une durée qui est celle d'une lettre, mais l'ensemble des problèmes qui se posent actuellement à la France et aux Français. Et donc nous avons pensé qu'il serait très utile de vous permettre de développer toutes ces idées et notamment de faire en sorte que sur un problème qu'on traite souvent de manière, au fond, très superficielle, disons-le franchement, alors même que chacun se rend compte que c'est un problème grave, souvent on ne va pas au fond. Alors nous allons essayer de le faire. Alors tout d'abord, peut-être pourriez-vous vous présenter, outre le fait que vous êtes maire, vous êtes issu de la société civile, vous n'êtes pas...
Alors très rapidement, j'ai commencé ma vie professionnelle à l'âge de 16 ans, comme mousse dans la marine marchande, et j'ai eu la chance de faire pendant 10 ans le tour du monde. Ce qui m'a permis de découvrir d'autres systèmes politiques, d'autres systèmes religieux, culturels, économiques, etc. Après quoi j'ai fait une école de communication qui m'a mené à Montfermeil, où j'étais d'abord salarié dans un premier temps, proche collaborateur de mon prédécesseur Pierre Bernard.
Que j'ai bien connu.
Tout à fait. Et qui ensuite, en 2002, a souhaité me donner la main, donc élu en cours de mandat en 2002, réélu correctement en 2008, et voilà.
Alors, vous êtes un maire de terrain, bien entendu. Et il y a une première remarque que l'on peut faire, et au fond c'est une remarque qui est à la fois rassurante et inquiétante. Les maires sont pratiquement les seules personnes de la société politique qui sont estimées actuellement en France. On peut dire que tous les sondages le montrent, les deux tiers des Français ne font confiance ni à la gauche ni à la droite en termes de politique. En revanche, un maire est le plus souvent apprécié, et curieusement, même si son action politique nationale n'est pas appréciée, il y a des maires qui sont ministres ou qui ont des fonctions importantes, ça ne déteint pas de manière négative sur leur image locale, ce qui est quand même un élément très intéressant, ce qui prouve, soit dit en passant, que si les politiciens nationaux étaient un peu plus proches du terrain, peut-être que les gens auraient une autre vision. Mais enfin, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet, c'est bien votre lettre à vos amis les maires. Alors, vous êtes un maire, finalement, qui ne faites pas passer les considérations idéologiques avant les autres, puisque vous êtes, dites-vous dans votre lettre, ami, et vous oui. Collaborez fréquemment avec M. Dillin.
Absolument.
M. Dillin, qui est le maire de Clichy-sous-Bois. N'oublions pas que Clichy-sous-Bois, c'est la ville dont sont partis les fameuses émeutes de novembre et décembre 2005. Bon, M. Dillin est un homme, je crois, assez modéré, même s'il est socialiste, donc vous pouvez dialoguer avec lui, mais pourtant, vous n'allez pas jusqu'à le rejoindre dans une action qu'il a lui-même commencée. Il s'adresse lui aussi au maire. Alors pourquoi, qu'est-ce qui vous sépare de quelqu'un qui est, pour, comme vous, un maire de terrain, même s'il n'a pas les mêmes opinions?
Alors, je milite depuis plusieurs années à Ville-et-Banlieue, qui est actuellement présidée par Claude Dillin. Je viens d'accéder... vice-présidence du Conseil national des villes, qui est un organisme placé auprès du gouvernement pour faire des recommandations. Et je mène, avec mes collègues maires de banlieue, un certain nombre de combats. Et c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, j'ai été de ceux, et je continue de l'être, mais à certaines conditions, à réclamer de la part de l'État un certain nombre de moyens spécifiques pour mener des actions dans nos banlieues. Lorsque le Conseil national des villes a été installé, la revendication première que certains de mes amis maires ont organisée n'était pas une réflexion fondamentale sur la politique de la ville, mais de demander à nouveau des moyens à l'État. Or, dans toutes les conversations privées que je peux avoir avec tous mes collègues maires et toutes tendances confondues, toutes tendances politiques confondues, nous sommes inquiets de l'émergence d'un certain nombre de phénomènes qui montrent à l'évidence que ce qu'on appelle les valeurs républicaines, on pourrait faire tout un débat sur ce qu'on appelle les valeurs républicaines, sont de plus en plus battues en brèche, ignorées dans le meilleur des cas, combattues dans le pire des cas. Et qu'on voit bien que les actions publiques que nous avons les uns et les autres menées avec passion, avec détermination, je dirais même avec amour, véritablement, emportent de moins en moins d'effets. Doit-on à ce moment-là continuer à réclamer plus de moyens dans l'illusion que ces moyens supplémentaires permettraient d'eux, ou doit-on à un moment donné reposer des questions plus fondamentales au regard de ce que l'on voit émerger et se dire, n'a-t-on pas raté une partie du débat, n'a-t-on pas pris les causes pour les conséquences et vice-versa, etc. Et donc c'est ce à quoi j'ai voulu très gentiment, mais fermement, mais gentiment attirer l'attention de mes collègues maires qui, en privé, partagent les mêmes inquiétudes, les mêmes constats, mais sont pris, lorsqu'ils reprennent une posture médiatique et politique, dans des considérations qui édulcorent le témoignage qu'ils peuvent apporter en tant que
politiciens. Alors, voilà. Précisément, les moyens, vous venez de les évoquer, les chiffres sont quand même impressionnants. Ce sont des milliards qui sont déversés sur ce que l'on appelle la politique de la ville. Je crois que c'est une douzaine de milliards qui a été consacrée
pour le renouvellement urbain.
Bon, il y a des subventions en permanence. Et alors, le piège que vous décrivez avec beaucoup de précision, c'est celui, au fond, qui pourrait amener les banlieues à considérer qu'elles sont les victimes de la crise, les premières victimes, peut-être même les victimes choisies, et que de ce fait, parce que les subventions, et c'est le deuxième point de votre intervention dans votre lettre, c'est que la crise est là, et la crise, elle est pour tout le monde. Donc là, il y a un vrai danger.
Alors, il y a deux dangers. Il y a le danger au regard de la situation économique du pays, où tout le monde est contraint de faire des efforts, et il n'y a aucune raison que la politique de la ville, à son niveau, ne fasse pas celle qu'elle est en mesure de faire. Car si l'on veut rendre, ou continuer de rendre, impopulaire la politique de la ville, et donc de se priver finalement à terme de tout moyen, il suffit de continuer à en réclamer plus, de la part d'une population qui, elle, contribue par ses impôts, et en même temps récupère les inconvénients de la proximité de telle ou telle cité ou ville difficile. Donc il y a une incompréhension qu'il faut regarder et dire attention, première chose. Deuxièmement, que fait-on de cet argent et comment est-il employé? Ça, c'est toute la question que je leur pose en disant oui, il faut des moyens, mais est-on sûr de les appliquer au bon endroit? Et toute la culture dans laquelle on a baigné sur la repentance, sur vous êtes les victimes de la colonisation, du racisme, etc., etc., fait que on voudrait passer notre temps à exonérer ces populations-là de toute responsabilité dans la situation qu'ils peuvent rencontrer. Dire « c'est que de votre faute et nous n'avons rien à nous reprocher », la caricature inverse n'est pas acceptable. Mais la caricature dans laquelle nous nous sommes installés depuis déjà quelques décennies n'est pas plus supportable. Donc là aussi, cessons, je dirais, de nous flageller et regardons, avant de demander plus de moyens et de dire « nous sommes les oubliés de la politique ou du politique au sens large », regardons déjà tout ce qui a été fait, qui est remarquable. Regardons ces 12 milliards, et je ne rougis pas de ces 12 milliards, et je suis un ardent défenseur de ces 12 milliards, dès lors qu'ils sont bien utilisés, et dès lors qu'on vérifie que derrière, le résultat sera pérenne. Il fallait le faire, mais est-ce qu'avec ça, on a tout fait? Est-ce qu'avec le renouvellement urbain, on a posé toutes les questions? Je crois que non. Donc sachons reconnaître ce qui a été fait, ne pas dire que rien n'a été fait, parce que à ce moment-là, on justifie par avance la révolte que pourraient avoir ces gens-là. Et quand on sait qu'ils sont prompts à la révolte, qu'un certain nombre ont d'intérêt à les manipuler pour cela, on est dans un cercle extrêmement dangereux. Donc ce n'est pas à nous, maires, élus de terrain, vous avez rappelé effectivement qu'on avait encore le respect de nos concitoyens, d'allumer par avance la mèche et d'en donner une justification qui serait en plus très mauvaise.
Absolument, et donc là, le débat est bien posé, on sait exactement ce qui est en jeu dans cette affaire, et naturellement, nous sommes aussi en pleine démagogie, parce qu'il est très facile dans des sujets pareils, il y a une tension, il y a des gens qui avancent à pas idéologiques masqués, et on arrive parfois effectivement à des situations où une étincelle peut effectivement embraser l'ensemble de la société. On a bien vu d'ailleurs en 2005, à propos d'une affaire qui certes était douloureuse, mais qui aurait presque pu être considéré comme un accident, En tout cas, si personne n'avait mis de l'huile sur le feu, on était arrivé à une véritable révolte des banlieues. Et...
Vous les spectateurs ne savent pas, peut-être,
vous
pour
avez
2005,
vécu ça plus...
puisque effectivement, j'étais aux
premières lignes.
Il y a eu deux émeutes. Il y a eu la première émeute qui a débuté effectivement sur Clichy le premier soir, qui ensuite s'est immédiatement étendue à nos deux villes, et selon l'endroit où les CRS poussaient, ça se passait plus sur Clichy ou plus sur Montfermeil. Au bout de la troisième nuit, les choses commençaient à se calmer, et l'indignation, l'émotion, légitime, enfin compréhensible en tout cas, des jeunes au regard de la mort de leurs deux camarades et du traumatisme subi par le troisième, commençaient à s'estomper, et c'était les plus jeunes classes qui étaient dehors et qui... ayant un compte stupide à régler avec la police, les caillassés, etc. Et puis il y a eu l'épisode de la grenade lacrymogène à proximité, pas dedans, à proximité de ce qui s'est révélé être pour les CRS une mosquée, un lieu de culte musulman, mais qui avait tous les aspects extérieurs d'un centre commercial, et qui a donné une toute autre connotation. Et je tiens à le raconter, parce que je crois que maintenant on peut dire un certain nombre de choses. Il y avait dans ce lieu de culte un fidèle qui, dès que les événements se sont produits, en temps réel, m'a prévu pour me dire « voilà ce qui s'est passé, monsieur ». Le temps que je sorte de chez moi, j'habite à proximité des lieux d'affrontement, et que j'aille au PC Sécurité, qui était la caserne de pompiers, j'avais tous les jeunes musulmans sur le pavillonnaire, donc non pas circonscrits dans le lieu habituel du conflit, partout qui étaient à leur portable, et j'entendais « c'est la guerre, ils ont attaqué une mosquée ». Et lorsqu'avant, les pierres descendaient du 10e étage, donc des terrasses des grands immeubles, il fallait que les enfants sortent de logement familial, montent sur les terrasses et canardent les forces de police. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'était les pavés ou les couscoussières qui partaient des fenêtres des appartements. Et donc là, on a changé de tonalité. On a doublé les effectifs en présence, et donc les jeunes sont venus de partout. Et on a donné une motivation, une justification à la révolte, qui passait le moment d'émotion compréhensible, reprenait une connotation, qui a été d'ailleurs exploitée après, puisqu'on a vu les barbus faire d'un côté les messieurs bons offices, de l'autre côté discuter avec les autorités, troisièmement dire, mais bon, enfin, bref, il y a tout un jeu de dupes, la télévision l'a assez bien montré, on a été victimes également. Et donc, on a redonné de l'intensité, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y avait une nouvelle justification que le phénomène a essaimé sur d'autres villes.
Alors, c'est un très utile témoignage qui est le vôtre, on ne l'a pas su.
Non,
je veux dire, même des gens qui essayent de s'informer comme nous, il y a des choses que nous n'avons pas su, probablement aussi parce que vous étiez tenu à une certaine discrétion, il ne fallait pas...
Cinq ans après, on peut dire des choses.
Voilà, ce qu'on peut dire, comment vous avez vécu ces événements. Et en effet, depuis, les choses ne se sont pas arrangées, puisque quotidiennement, il y a des voitures qui brûlent, pas seulement chez vous, partout, puisqu'il y a 40 à 50 000 voitures, je crois, chaque année qui brûlent. C'est le seul pays d'Europe où ça arrive, même le seul pays du monde, pourrait-on dire, à part les pays... qui sont en guerre, mais c'est quand même une situation qui est d'une émeute quasi permanente. Et deuxièmement, on a le sentiment, je ne sais pas si c'est le vôtre également, que le problème n'est pas abordé d'une manière correcte par les autorités. Indépendamment même des présupposés politiques, mais on se dit vraiment, ils n'ont rien compris. Et moi, c'est mon sentiment quand je les vois faire. Alors vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont quand même compris quelque chose?
Alors, l'analyse que les autorités ont faite pendant de très nombreuses années est la suivante. Ce sont les dysfonctionnements urbains, sociaux et économiques qui sont la cause des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Conclusion, en agissant sur l'urbain, l'économique et le social, nous allons réussir à rétablir la situation. Et c'est en cela que pendant des années, la politique de la ville a déversé des fonds considérables sur ces trois sujets-là. Alors, il y avait de réels dysfonctionnements. Mais est-ce que c'était des causes ou est-ce que c'était des conséquences? Et moi, mon intime conviction, ça je l'ai dit depuis maintenant 2002, la première fois, dès que j'ai été maire et dès que j'ai été au Conseil national des villes, je n'étais pas le vice-président, mais j'ai dit, les causes ne sont pas sociales, ne sont pas économiques, ne sont pas urbaines, elles sont culturelles. Voilà. Alors, qu'il faille intervenir sur le social, l'économique et l'urbain, c'est évident. Mais si on ne remonte pas à une cause supérieure qui est d'origine culturelle, eh bien, on s'épuise en vain à mener des politiques qui ne sont pas efficaces. Alors, une fois qu'on a dit le mot culturel, qu'est-ce qu'on peut entendre par culturel? Je vais prendre quelques exemples, tout simple. Chaque pays ou chaque culture a des modes éducatifs qui lui sont propres et qui sont tout à fait respectables dès lors qu'ils correspondent à un environnement général. Et je prends pour l'Afrique noire, par exemple, l'autorité parentale est déléguée à la communauté adulte. Et c'est ainsi que ceci fonctionne, et ça fonctionne assez bien. Ne pas être en capacité de dire à ces familles qui viennent, pour un motif ou pour un autre, on verra sans doute tout à l'heure l'immigration, mais pour un motif ou pour un autre, que ce système-là a toute sa valeur dans leur environnement traditionnel, mais que transposé en l'État, on arrive aux pires catastrophes, eh bien, c'est arriver aux pires catastrophes, c'est mettre beaucoup de moyens à l'école et ailleurs, et s'apercevoir, mais comment cela se fait-il? Cela ne marche pas. Et si on ne dit pas aux parents, vous aurez une relation quasi exclusive de responsabilité vis-à-vis de l'éducation de vos enfants, eh bien, on va essayer de colmater les trous autour, mais on n'ira pas au cœur qui dit, mais votre enfant, ce n'est pas la cage d'escalier, ce n'est pas l'immeuble, ce n'est pas la cité, ce n'est pas le quartier qui l'éduquera, contrairement à la manière dont ça pouvait se passer au village. On peut prendre le succès scolaire ou la réussite scolaire des enfants. Je veux bien qu'on passe les classes à 4 élèves par classe, je veux bien qu'on mette 4 professeurs autour de chaque élève. Si le garçon ou la fille, lorsqu'il rentre chez lui, n'entend pas parler français par ses parents, ne dispose d'un écran de télévision dans chacune des pièces qui n'est pas branché sur des chaînes francophones, avec une familiarisation avec la langue française, consulte des sites internet qui sont dans sa langue encore maternelle, eh bien, ce n'est plus le problème de l'école si à un moment donné le relais n'est pas pris. Alors qu'il soit bilingue, ça ne me dérange absolument pas, et bien au contraire, c'est une richesse. Mais qu'il soit recloisonné, reconfiné dans sa culture d'origine exclusivement, sans aucune ouverture par l'intermédiaire de ses parents à la culture et à la langue française, il n'est pas étonnant que derrière, on ait des retards scolaires. Mais j'accuse pas le gamin, il est dans une situation. Donc si on n'est pas capable de dire à des parents qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, et qui ne parlent pas toujours français, ce qui est le cas chez moi, je conclue deux choses. Nous, quel manque d'exigence vis-à-vis de ces populations-là. Du côté de ces populations-là, quel manque de curiosité pour le pays où ils ont décidé, au moins eux, de vivre, de faire grandir leurs enfants, et où vraisemblablement leurs enfants continueront à vivre. Mais on est dans une relation encore plus perverse, c'est qu'aujourd'hui, lorsque ces mêmes parents, sur l'incitation des pouvoirs publics, notamment de la commune, veulent apprendre le français, ce sont les enfants qui leur disent « Non, tu ne veux pas être comme eux, sous-entendu, mais pourquoi leur ressembler puisque tu m'as confiné dans ma culture ou dans ta culture traditionnelle ?» Et en même temps, c'est une perte de pouvoir pour l'enfant, puisque c'est le point de passage obligé pour toutes les transactions de la vie quotidienne. Donc quand il s'agit de ramasser une allocation à la caisse d'allocation familiale, là, je suis sûr que la traduction est bien faite par l'enfant. Si c'est une réprimande du maître, je ne suis pas sûr que la traduction soit aussi bien faite de la part de l'enfant.
Alors là, vous posez effectivement un problème qui est d'une extrême gravité, car on ne voit pas les solutions. Ben, on les voit bien en théorie, on sait bien ce qu'il faudrait faire, mais on voit à quel point c'est difficile. Et je pense que ça va nous faire une transition toute trouvée avec le problème de l'immigration. Mais auparavant, j'aimerais quand même que vous nous précisiez à l'intention de nos téléspectateurs ce qu'est réellement Montfermeil. Est-ce que c'est vraiment seulement une cité sensible ou est-ce que c'est une ville qui comporte des éléments de sensibilité?
Alors, c'est une ville qui comporte des éléments de sensibilité puisque sur 3% du territoire, 15 hectares sur les 550 de la ville, je concentre un tiers de la population. Cette population est à 60% étrangère, donc avec une carte de séjour. Les 40 autres pourcents sont, je dirais, des personnes qui ont la nationalité française, mais qui n'ont aucune ascendance française, ou très peu, donc c'est par le droit du sol ou la naturalisation. 50% de cette population a moins de 20 ans, à peu près. Voilà quels étaient les chiffres au paroxysme de la situation. Les choses ont évolué quand même depuis, grâce aux démolitions, aux structurations, etc. Bien. Donc, et on concentre 40 nationalités différentes.
Combien d'habitants au total à Montfermeil?
Il y en a 27 000, et donc on avait au plus fort 9 000 personnes concentrées sur 3% du territoire.
Donc ça fait effectivement un bon tiers, et les chiffres, j'ai souvent dit à cette antenne qu'il y a deux chiffres qui sont remarquables et qu'on peut revérifier l'impact régulièrement. Au-delà de 10% d'une population halogène, les problèmes commencent à être très sérieux. Au-delà de 20%, ils sont pratiquement insolubles. Ça vaut d'ailleurs pour une association qui ne comporterait pas du tout d'éléments d'extranéité. Donc si vous avez par exemple une association où il y a plus de 10% de contestataires, oui, vous êtes sûr d'avoir des problèmes. S'il y en a 20%, c'est de les mettre. Alors effectivement, vous en êtes à Montfermeil, il y a 27%, donc vous difficultez.
Oui. Alors, il y a un autre phénomène à cela. C'est l'origine culturelle quand même des populations. je crois qu'il faut aborder aussi avant même l'immigration, si nous avions affaire à des populations dans le même modèle culturel, modèle occidental au sens large du terme, où la personne est première. J'existe, j'ai une liberté et j'ai une responsabilité. Bon. Et on l'a vu pour les Polonais et les Portugais, puisque souvent on glose en disant, mais les choses se dérouleraient totalement différemment. Et en fait, la difficulté à laquelle je suis confronté, et je passerai quand même un petit moment à le dire, c'est que nous avons des populations qui sont issues d'un milieu culturel où le « je » n'existe pas, c'est le « nous » qui prédomine. Je n'existe en fait que par mon appartenance à la communauté, et c'est un « nous ». Et la communauté, je dirais, a un œil sans cesse sur ses ressortissants et sans cesse contrôle sur ce qu'ils font. Et toute la difficulté que j'ai en tant que maire, c'est d'essayer de permettre à ces personnes d'exercer leur liberté. Et elles ont des attirances pour certains aspects, pas tous, pour certains aspects de notre culture, mais qui ne peuvent pas ou difficilement s'exprimer parce qu'ils sont sous le regard de la communauté. La même personne, qu'elle me croise dans le centre-ville, qu'elle me croise au cœur du quartier, ne me dira pas bonjour de la même manière. Dans un cas, on est dans une relation qui n'est pas sous surveillance, et là c'est le cœur qui pourra parler, et dans une relation sous surveillance, ce sera discret pour ne pas apparaître comme une balance. Voilà. On va aujourd'hui, dans certaines périodes, notamment celle du Ramadan, mais même en dehors du Ramadan, à fouiller dans les poubelles des gens pour vérifier si jamais ils ne mangeaient pas de porc. On va vérifier au moment du Ramadan si ils n'ont pas mis la table à 13h et on va sonner chez eux. Lorsqu'un enfant qui ne fait pas le Ramadan, pour une raison ou pour une autre, soit c'est pas sa culture, soit il ne se conforme pas à cette prescription, lorsqu'il sort un goûter du cartable à 4h, le goûter est immédiatement piétiné par les petits camarades, etc. Lorsque j'envoie, et je profite de la proximité que nous avons avec Paris pour emmener toute génération confondue, un maximum de personnes visiter le Louvre, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, le Sacré-Cœur, le Château de Versailles et autres, lorsque je fais un quart où il y a des mamans, passé le dernier virage où on ne voit plus la cité, la moitié des mamans retirent le foulard. Quand on leur demande « Mais pourquoi le mettez-vous » Je le mets pour avoir la paix. Bon. Et donc, c'est ce combat...
Ce qui en dit long.
Ce qui en dit long. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, dans la manière dont on appréhende ces questions-là, essayer de faire la part des choses entre le système dans lequel ces personnes sont enfermées ou risquent d'être enfermées, et les personnes en tant que telles, et qui sont tiraillées, déchirées entre ce qui leur plaît chez nous et le poids de la communauté qui les ramène à l'ordre et de manière de plus en plus systématique et de plus en plus violente.
Mais est-ce que le reste de la population, qui représente quand même la majorité, est dans une attitude qu'on pourrait qualifier d'hostilité, ou est-ce que cette situation leur est difficilement supportable, ou est-ce que vous trouvez quand même de la compréhension chez eux? Pour vous, qui êtes quand même chargé de l'ensemble de la population, vous n'êtes pas l'avocat d'une partie contre une autre.
Non, surtout pas.
Et donc, c'est peut-être un peu difficile. Comment faites-vous pour être l'intermédiaire entre ces deux sociétés, pourrait-on dire?
Alors, souvent dans mes discours, je dis de la connaissance vient la reconnaissance. Et la reconnaissance dans les deux sens du terme. Je te reconnais une existence, une identité, une culture, une originalité, et je te suis reconnaissant de ce que tu m'apportes par ta différence. Et on a une manifestation, je vais vous en décrire une, qui s'appelle le défilé des cultures. Ce défilé, d'abord, défilé de mode, donc c'est autour du corps. Et on voit bien que selon les cultures auxquelles on appartient, la vision que l'on a du corps n'est pas la même.
Ça se déroule chez vous, donc à Montfermeil.
Ça se déroule à Montfermeil. Et je ne veux pas faire référence au débat sur la burqa, mais on est au cœur de la conception que l'on peut avoir du corps, de la manière dont on le montre, on ne le montre pas, etc. Donc déjà, c'est un sujet un peu clé, central. Deuxièmement, ce défilé se fait en deux temps. Premier temps, les différentes communautés présentes sur la ville défilent dans leur culture, dans leur costume d'origine. Je te reconnais dans ce que tu es. Mais pour défiler sur cette première partie, il faut s'engager à défiler sur la seconde partie. Et la seconde partie, ce sont des créations originales de chacune de ces communautés sur une idée commune donnée par la municipalité. À la manière de, et on a pris une liste de grands couturiers français. À la manière de, et on a pris les noms de rues de Reims, Picasso, Degas, Utriot, qui sont au cœur du quartier que l'on évoquait tout à l'heure. L'autre année, c'était à la manière de, et on a pris les noms de fleurs. L'an dernier, c'était à la manière de la Tour Eiffel, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Panthéon, Notre-Dame de Paris, le Sacré-Cœur, etc., l'Opéra Garnier, Voilà. Et donc, chacune de ces communautés est obligée de s'approprier cette culture française à travers ses peintres, ses grands couturiers, ses monuments, etc., et de le revisiter à l'aune de leur originalité et de ce qu'ils peuvent apporter pour des créations tout à fait originales, et tout le monde défile ensemble. Et je peux vous dire que quand vous avez dans le gymnase 1500 personnes qui représentent toute la diversité de la commune, de tous les quartiers et de toutes les couches de la population, là, j'ose employer le terme, c'est un moment de communion. Et que, à travers ça, eh bien, les gens ont appris à se connaître, et lorsqu'ils se croisent dans la rue, eh bien, c'est plus facile de se saluer pour avoir vécu cela ensemble que de continuer à s'ignorer.
Et c'est curieux, pardon, vous interromps, mais c'est que c'est une initiative vraiment passionnante. Et comment se fait-il qu'on en parle si peu?
C'est sûr que j'ai davantage de journalistes quand ça brûle que quand ça va
bien.
J'en conviens.
C'est
la grande, difficulté. C'est comme si je vous racontais le son-lumière. Ça fait 16 ans qu'on fait un son-lumière qui est vraiment une qualité. J'ai pas réussi encore à traîner une caméra ce son-lumière. Voilà.
Bon, alors jetons la pierre à nos collègues journalistes qui ne font pas toujours ce qu'ils devraient faire. Non, parce que, bon, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut absolument avoir un ton bénisseur dans ce genre d'affaires, mais quand il y a des initiatives positives, il serait quand même pas mal de les signaler. Alors, nous arrivons à la fin de la première partie, nous allons évidemment marquer une petite pause technique. Je veux simplement rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent trouver sur le site www.claudereichmann.com le texte intégral de la lettre à mes amis les maires de M. Xavier Lemoine, et qu'ils peuvent bien entendu le lire et l'imprimer, et je suggère même qu'ils le distribuent s'ils le peuvent à un certain nombre de personnes autour d'eux qui pourraient effectivement devenir des vecteurs d'une nouvelle approche, parce que n'hésitons pas à le dire, c'est réellement une nouvelle approche du problème posé par les banlieues et qui mérite, je pense, d'avoir une ampleur aussi grande que possible. Donc nous allons marquer une pause de quelques instants, nous allons simplement nous permettre, il fait très chaud à Paris aujourd'hui, c'est peut-être la raison pour laquelle vous nous voyez dans un décor inhabituel, mais vous avez peut-être observé que nous avons, en l'honneur de M. Lemoine, demandé aux forces de police de venir passer une petite sirène de temps en temps, dont c'est destiné simplement à faire un petit peu de couleur locale. Voilà. Alors nous nous interrompons un instant, à tout de suite.